Vous êtes sur France Musique, il est 10h, le matin des musiciens. Aujourd'hui, Stéphane Goldet.
Et bonjour à vous, je reçois pour la troisième fois cette saison un violoncelliste qui est parmi les grands de son instrument et de notre pays, François Salk. Vous vous souvenez peut-être l'avoir déjà entendu dans la sonate pour piano et violoncelle de Shostakovich avec Elena Rosanova, ou plus récemment avec Éric Lesage pour un tandem de sonates du début du XXe siècle, la sonate de Debussy ainsi que la deuxième de Fauré. Et bien, il nous vient cette fois, il nous vient avec une œuvre des toutes dernières années du XXe siècle, la sonate du compositeur Christophe Maratka, avec lequel il est en réseau, en lien d'amitié depuis l'arrivée de Maratka à Paris il y a une bonne quinzaine d'années maintenant. François Salk donc et Christophe Maratka sont nos deux invités aujourd'hui. Maratka est un compositeur né à Prague, petit-fils de sculpteur et fils de médecin, qui a profité d'une bourse pour arriver à Paris à 22 ans en 1994 et qui y est resté. Il était venu à Paris pour étudier la musique et étudier le piano avec Jean-Claude Penthier et vous verrez, ça a laissé des traces. Il est compositeur maintenant et nous allons entendre tout au long de cette matinée principalement trois pièces de Christophe Maratka. D'abord sa troisième Xardas, qui n'est pas tout à fait entièrement de lui, puis un grand solo pour violoncelle que nous regarderons un peu en détail avec François Salk, sera le cœur de l'émission, et enfin cinq petites énigmes qui sont un petit bijou de la littérature pour piano et violoncelle. Nous commençons avec cette troisième Xardas qui est à la fois de lui et pas de lui, vous en rendrez tout de suite compte. François Salk est au violoncelle et le compositeur est au piano, à moins que sous le bois du piano ne se soit caché quelques cymbalums.
Thank you.
Christophe Maratka et François Salle, qu'on vient de vous entendre dans cette Xardas 3. Alors, Christophe, vous qui étiez au piano, vous en êtes le compositeur. Vous en êtes vraiment le compositeur ?
Non.
Vous en êtes partiellement.
Je participe à la composition. C'est une transcription, hein. C'est une transcription des airs populaires. Plutôt, c'est une composition dans le style de musique traditionnelle d'Europe centrale.
Oui, de Transylvanie, on va dire. Hein,
je dirais que c'est plus large parce qu'en fait, on entend des références à la musique traditionnelle, mais de différents peuples, on peut dire. Hein. Il y a la musique slave, musique des tziganes, musique juive, musique hongroise, bref, c'est un peu mélangé.
Et musique roumaine, non ?
Bref, il y a un peu tout ça. En fait, à la base, il y a des écrits, des notes de Milena Dolinova qui collectionnait des airs populaires.
Comme Bartók et Kodály faisaient ça.
Comme Janáček, oui. Beaucoup de compositeurs à la fin du 19e siècle.
Et c'est à partir de ce matériau
Et c'est à partir de ce matériau où il y a marqué que la mélodie et harmonie et des paroles. Que je réalise différents arrangements hein, pour le plaisir de mes proches, des musiciens autour de moi.
Donc j'imagine qu'il y a une version pour violon parce que c'est une... C'est
une version pour violon. Et effectivement, il y a d'autres tchardash pour quatuor à cordes, clarinette, contrebasse, piano qui imitent le cymbalum évidemment. Et au départ, j'ai conçu ces œuvres pour se faire plaisir, pour jouer à la maison lors des fêtes entre nous. Et du coup, ça a eu beaucoup de succès.
Et celle-ci a un rapport avec notre François Salle ?
Voilà, effectivement, parce que celle-ci, je l'ai écrite pour François, comme d'autres œuvres, on va voir. Ouais. Mais effectivement, elle est pour violoncelle et piano.
Vous avez évoqué comme ça ce passage dans différents pays d'Europe centrale. Je vous propose d'écouter, nos auditeurs doivent avoir encore en tête le début, cette introduction un tout petit peu magique, mystérieuse. Enfin, on se demande dans quelle forêt on va pénétrer. Je vous propose qu'on écoute un extrait de la bande-son de L'Atchodrome, qui était un film que certains de nos auditeurs ont peut-être vu et qui nous faisait vivre le périple des tziganes de l'Inde à l'Espagne en passant justement par l'Europe centrale. Vous nous disiez, Christophe et François, que ce genre de technique est très particulière. Et du reste, on va voir dans votre sonate maintenant à quel point vous avez exploré tout cet ailleurs de la technique occidentale. Alors, c'est intéressant, vous avez parlé de paroles hein, pour votre Xardas dans laquelle nous venons de vous entendre tous les deux. L'éloquence là, du chanteur, qui est un homme d'un certain âge, un Roumain, et ben là, dans la pièce que nous venons d'entendre, que vous avez enregistrée pour les auditeurs du Matin des musiciens, l'éloquence, vous la chargez en quelque sorte entièrement sur le violon.
Oui, il faut dire que dans cette tchardash pour violoncelle, en fait, dans celle-ci, il n'y a pas de parole parce que dans d'autres, ce sont des airs plus concrets, donc avec une histoire plus concrète. Mais celle-ci, en fait, je voulais vraiment instrumentale. Du coup, vraiment, on est dans le domaine de l'improvisation.
De l'improvisation pour la partie lente, en tout cas.
Du lent, mais même rapide.
Même pour la danse.
En fait, la partie lente s'appelle Lachan. Et la partie rapide, c'est Frischka. Voilà, c'est toujours comme ça dans les tchardash.
Et alors, on va dire que dans cette pièce introductive à notre émission ce matin, François Salk avait encore une technique de jeu, une virtuosité consommée, hein, on l'a entendu, mais une technique très sage par rapport à celle que vous mettez en œuvre dans votre grande sonate pour violoncelle seule, que je crois que vous avez écrite pour lui et avec lui, hein, cette voyacello.
Oui,
racontez-nous un peu cette histoire-là d'une gestation d'une œuvre quand même de 25 minutes que nous allons entendre, nous allons introduire mouvement après mouvement, puis naturellement nous entendrons ensuite dans sa continuité. François, on ne vous a pas encore entendu depuis le début de cette émission. Comment ça se passe comme ça, une gestation d'une œuvre écrite pour un interprète, j'ai envie de dire par un interprète?
À part interprète, non, quand même pas. Pour interprète, mais c'est sûr, Christophe a écrit cette pièce. On a fait de longues séances de travail sur différents modes de jeu. Alors justement, on en discutait tout à l'heure. Christophe, parfois, dans les présentations de concerts, aime à dire que je lui ai demandé une pièce longue et difficile.
Alors on est servi.
Alors moi, je dis, mais non, on ne dit pas ça, parce que parfois, il y a des réactions des musiciens qui ont entendu la présentation de Christophe et qui disent, mais comment on peut demander à un compositeur une pièce longue et difficile comme si c'était absolument anti-musical ? Alors j'ai reçu des reproches, moi, parfois, de cette présentation de Christophe. Et finalement, je ne me souvenais pas lui avoir demandé ça, mais certainement, j'ai dû dire ça à un moment donné. Et dans cette question de longueur et de difficulté, évidemment, il ne s'agit pas de virtuosité gratuite, il ne s'agit pas d'effet, il ne s'agit pas juste de démontrer.
Mais c'était un défi, parce qu'il n'en existe pas beaucoup, des grands solos du XXe siècle pour violoncelle.
On a la sonate de Kodály qui est très longue, et puis il y a comme des gros concertos, comme la symphonie concertante de Prokofiev, qui sont aussi des pièces
ne parlons que de pièces solistes.
La sonate de Kodály est la plus connue dans les pièces longues et difficiles. Kodály était lui-même violoncelliste. Et donc, avec Christophe, dans ce côté défi, dans ce côté physique, c'était surtout pour aussi une projection musicale, c'est-à-dire dans l'effort, et quand on joue la pièce en concert d'un bout à l'autre, c'est pour ça d'ailleurs qu'il ne faut pas jouer des extraits de la pièce, mais la jouer toujours intégralement. C'est dans l'effort, dans la fatigue même, dans la douleur qu'on peut avoir physiquement après un quart d'heure, 20 minutes de musique comme ça très intense. Il y a quelque chose qui se dégage, et moi je le sens en concert, il y a quand même la transpiration, il fait chaud, il y a une lutte, et les auditeurs le savent aussi. Et la manière de jouer les chants, comme ce chant qu'on va entendre à la fin dans le quatrième mouvement, une sorte de grande plainte, cette plainte jouée dans une extrême fatigue est très 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 différente musicalement. Il y a vraiment une expression que je découvre en moi, dans la fatigue, qui n'est pas du tout l'expression si j'étais frais et que je jouais cette pièce comme ça, par petits bouts, sans s'affronter cette longueur et cette difficulté. C'est vrai qu'il y a dans la difficulté, dans cette demande d'une pièce dense, une pièce riche, avec énormément de doubles cordes, parfois c'est même sur trois cordes, quatre cordes, il y a une expression musicale, une fierté, une profondeur qu'on retrouve aussi dans la difficulté physique.
Alors si vous le voulez bien, on écoute le début du premier mouvement de votre sonate et on en parle ensuite.
Thank you.
La première page, le début du premier mouvement de la sonate qui s'appelle Voiacello de Christophe Maratzka, Gitaneon est le titre de ce mouvement, par François Salk, qui l'a enregistré 2 ans à peu près après la création de cette œuvre qui a eu lieu en 1999. Il y a déjà toute une atmosphère et un lyrisme particulier, hein, Christophe ?
Non, mais absolument. En fait, la partition, toute l'œuvre, est composée de 4 mouvements. Et dans les 4 mouvements, je voulais d'une façon ou d'une autre saisir un peu l'essentiel de cet univers de la musique tzigane. Donc ici, en fait, dans le Gitaneon, le premier mouvement, elle est fondée, on peut dire, sur 2 choses. Tout d'abord, ce sont des notes qui sont jouées avec une extrême vitesse d'archet qui donne un son agité et en même temps très aéré. Peut-être François,
oui,
si vous me donnez
alors je prends mon violoncelle pour
un exemple. Et en fait, il y a une contradiction parce qu'à la fois, il faut jouer très très vite avec l'archet et en même temps, il faut que le son soit très calme. C'est quand même pas un mouvement qu'on a entendu, hein, qui est très virtuose dans le sens de rapidité et d'effet. Hein.
On entend bien que vous nous introduisez à quelque chose.
Hein. Voilà.
C'est un Donc, mouvement François, introductif. Si tu... C'est le premier des 4 mouvements a une fonction d'introduction à un univers.
Oui. Alors Christophe, justement, marque archet léger et rapide pour cet effet de flottando, d'un archet qui a à la fois une densité parce qu'il y a beaucoup d'agitation, mais il y a très peu de pression sur la corde. Alors je vais essayer de le montrer.
Quelque chose qui donne le sentiment que vous jouez un petit peu à la limite du son harmonique ?
La limite du son harmonique, c'est-à-dire c'est surtout un souffle qu'on va entendre quand le bras se place très très vite sur la corde. On va entendre un frottement de l'archet qui n'émettra pas vraiment un son, mais ce sera une sorte de bruit, ce qu'on appelle le souffle.
Est-ce que ces techniques, ces ouvertures vers autre chose, hein, existaient préalablement ? C'est-à-dire par exemple chez Bartok, qui quand même dans ses quatuors a inventé tout un tas d'effets pour les cordes. Est-ce qu'on les trouve déjà ou est-ce que ça, c'est quelque chose, François, vous qui avez beaucoup d'expérience dans beaucoup de secteurs différents de la musique occidentale, ou est-ce que c'est quelque chose de complètement nouveau ?
Alors le son flottando n'est pas nouveau. C'est-à-dire d'effleurer la corde et d'avoir un son qui ressemble à la flûte, ça c'est même très ancien. Maintenant, le fait de demander spécifiquement à un interprète d'avoir un archet très rapide pour une longueur d'archet totale, c'est-à-dire utiliser l'archet de l'extrême talon jusqu'à l'extrême pointe dans un laps de temps très court, ça c'est nouveau. C'est une indication particulière qui oblige l'interprète à effectivement jouer la pièce comme le compositeur l'entend.
Ah, ça doit être très excitant de se dire qu'on a participé, hein, je pense à vous en tant qu'interprète, à l'idée que on peut dire que vous êtes dans la situation de l'homme qui a fait le premier pas sur la Lune, quoi. Vous avez apporté quelque chose grâce à votre exigence qui maintenant est dans l'histoire de la musique et qui sera une nouvelle base de départ. On peut dire que la sonate de Kodály, qui, je crois Christophe, vous en étiez d'accord au moment où elle est apparue, c'est-à-dire dans les premières années du siècle, hein, était vraiment considérée comme ce qu'il y avait de plus difficile à jouer.
Absolument.
Et maintenant dépassée par un certain nombre d'événements.
Vous savez, c'est dans le sang des compositeurs, c'est comme ça. La mission des créateurs en général, c'est pas seulement de se faire plaisir à soi-même et au public, mais c'est aussi d'ouvrir d'autres portes et d'inventer, en fait. À la fois, c'est de la composition, donc on compose avec des éléments déjà existants, des éléments déjà connus, et en même temps, en combinant les différents éléments qu'on connaît, on trouve de nouvelles formes. C'est comme des architectes qui devaient peut-être travailler toujours avec du bois, mais qui inventent des formes différentes. Donc c'est peut-être un parallèle qui me vient comme ça à l'esprit. La chose qui frappe l'oreille le plus, quand on écoute le début de l'œuvre, c'est le changement de l'accord du violoncelle, c'est-à-dire ce qu'on appelle la scordatura, c'est-à-dire le violoncelle n'est pas accordé d'une façon normale, les 4 cordes do, sol, ré, la, mais les cordes du milieu, sol, ré, sont baissées d'un demi-ton, sol, fa dièse et do dièse.
Vous pouvez nous les donner à vide, François, ces 4 cordes-là ?
Ça donne beaucoup d'ampleur à l'instrument. Il y a une détente des cordes. Comme les 2 cordes du milieu sont baissées d'un demi-ton, forcément, il y a moins de pression sur l'instrument. Il y a moins de pression sur le chevalet. Et ça libère un petit peu certaines vibrations. Le violoncelle paraît plus large, plus doux.
Cette scordatura, elle est pour les 4 mouvements.
Voilà, effectivement. Oui.
Alors, si vous voulez bien, on écoute Tsiganouska.
Tsiganouchka.
Tsiganouchka, le début de Tsiganouchka, sous les doigts et sous l'archet de François Salk, ce deuxième mouvement de la sonate pour violoncelle seule, Voyacello, de Christophe Maratka.
Thank you. Thank you.